Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Merci de nous rejoindre sur ce live. Merci aux fidèles pour votre fidélité, finalement. Et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui nous rejoignent. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on est aujourd'hui sur l'émission Écoloscope, qui est une émission dédiée aux thématiques environnementales et aux luttes écologiques. Et aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir Rania Daki. Salut Rania.
Salut, ça va?
Ça va, merci à toi d'être venue. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Eurial. Merci comme d'habitude d'assurer la modération. Alors n'hésitez pas à nous dire aussi si vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de problème de son. S'il n'y en a pas, c'est super, tout roule. Alors aujourd'hui, on va accueillir Rania pour parler d'un rapport qui est sorti par l'association GetUp. Je crois que tu l'as ramené en format papier, tu as été plus assidue que moi dans le travail. Donc voilà, peut-être je peux le montrer en caméra. Est-ce que notre technicien, plutôt celui-là. Hop. Donc le rapport, c'est « Injustice climatique ». Mais je vais commencer par te présenter toi d'abord. Donc Rania, tu viens ici aujourd'hui en tant que porte-parole de l'association GetUp. Ouais. Alors tu es diplômée à la base en tant qu'ingénieure spécialisée en énergie et tu as un master en environmental policy, j'imagine que c'est comme ça.
Ouais, c'est ça.
T'es en cours, t'es en master à Sciences Po. T'es aussi cofondatrice d'un super podcast que je conseille à tout le monde qui s'appelle Diaspora. Je sais pas si tu veux nous présenter vite
ouais,
fait.
Ouais, pourquoi pas. En gros, Diaspora, c'est au départ, ça devait être juste un podcast et à la fin, on a décidé de l'étendre à un média. Ça a pour objectif de donner la parole aux personnes issues de l'immigration qu'on n'entend pas forcément dans les médias mainstream. Et donc, on a deux formats de podcast. Le premier, c'est Daronne, où on donne la parole à des mamans issues de l'immigration et nous raconte leur parcours. Et le deuxième, c'est Génération Mosaïque. C'est un écho à la première émission en France qui donnait la parole aux immigrés, qui s'appelait Mosaïque dans les années 80. Mmh. Et du coup, c'est un peu le même objectif. On donne la parole à des jeunes binationaux, trinationaux, qui ont un peu marqué leur domaine de travail et qui nous racontent leur parcours, les difficultés auxquelles ils ont pu faire face. Et voilà.
Trop bien. Et vraiment, je vous conseille à tout le monde parce que c'est super intéressant. Et alors aujourd'hui, tu es... Alors, il faut savoir aussi quand même que tu as été récemment classée par Street Press dans le top 2025 des personnalités qui, je cite, vont changer le monde. Ça va, j'espère que tu n'as pas trop la pression.
J'ai grave la pression.
Tu as un peu la pression. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Street Press. Alors donc aujourd'hui, tu viens parmi tes nombreuses casquettes en tant que porte-parole justice climatique de GetUp. GetUp, c'est donc une association qui travaille en faveur de la justice sociale pour les jeunes de quartiers populaires. Est-ce que tu peux nous présenter un peu GetUp, ce que vous faites, etc.
Du coup, GetUp, c'est une association qui existe depuis 2016. Comme tu l'as dit, c'est une association qui lutte pour plus de justice sociale dans les quartiers populaires. Et en fait, on le fait à travers quatre pôles différents. Donc le premier, c'est le pôle éducation, qui est un peu le pôle emblématique de GetUp. On accompagne majoritairement des jeunes. On a créé un programme qui s'appelle Les Clés, où en gros c'est un dispositif qui accompagne les jeunes tout au long de l'année. Au départ, on se concentrait plus sur des jeunes qui avaient genre 17-19 ans, et maintenant on commence dès le collège parce qu'on se dit que les inégalités structurelles elles commencent dès cet âge-là. Et du coup, ce programme il permet de leur donner les clés pour leur futur. Et ce qui est cool, c'est qu'on garde vraiment un lien avec les bénéficiaires parce qu'aujourd'hui ils deviennent bénévoles, ils organisent des événements. Par exemple, dernièrement, la semaine dernière, il y avait un événement qui s'appelle Le Cercle, où on a parlé de santé mentale, des réseaux sociaux, et ça, c'est hyper enrichissant même pour eux. Ensuite, il y a le pôle communication et médias. Donc, c'est des journalistes, des chargés de communication, qui s'occupent de debunk ou de décrypter l'actualité, la politique, pour l'adapter, en fait, et expliquer aux jeunes de quartier populaire en quoi ça les touche. Et ensuite, il y a le pôle recherche et plaidoyer, dont moi, je fais partie, qui, du coup, a produit ce rapport Injustice climatique et d'autres rapports, par exemple un rapport BDX sur la surveillance policière dans les quartiers populaires. Mmh. On parle aussi d'engagement des jeunes de quartiers populaires dans l'associatif ou autre. Et c'est aussi ce pôle-là qui travaille avec le pôle communication et médias pour faire des décryptages, par exemple pour parler de ce qui se passe à Mayotte, pour parler de ce qui se passe pendant les législatives. On a fait un gros travail justement de suivi. Et le dernier pôle, en fait, c'est le pôle écosystème. En gros, c'est pour créer du lien avec les différentes associations qui existent. Parce que nous, on a un endroit à Saint-Denis, on a 400 mètres carrés qu'on met à disposition d'autres associations si elles ont besoin pour faire leurs événements, pour faire leurs réunions, pour travailler avec nous. Et voilà.
Ok, trop bien. Et en tout cas, vous êtes principalement en Île-de-France ou vous avez des réseaux un peu partout
On est basé à Saint-Denis, du coup, on travaille principalement en Île-de-France. Mais ça ne nous empêche pas d'aller à droite, à gauche de temps en temps.
Okay.
Et on travaille aussi avec, beaucoup avec une association qui s'appelle La Relève à Metz. Mm-hmm. Du coup, on est très en lien avec eux, par exemple.
Ok, trop chouette. Eh ben, écoute, j'espère que j'aurai pas de quinte de tout qui vont t'interrompre pendant cet entretien, parce qu'en tout cas, tu as posé déjà plein de bases de sujets dont évidemment on va parler pendant cette heure et demie ou ces deux heures. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent encore, aux fidèles et aux nouveaux. Et avant de plonger dans cette discussion, je vous rappelle à toutes et à tous que si on peut faire cette émission, c'est grâce et uniquement grâce à vos dons. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui donnent déjà et qui soutiennent la presse indépendante. Et à celles et ceux qui ne le font pas encore, et ben, c'est votre signe de le faire aujourd'hui. Vous pouvez faire un don unique ou bien un don mensuel, c'est encore mieux. Merci beaucoup à vous. Et je propose qu'on commence tout de suite. Donc, tu l'as dit, aujourd'hui, on vient parler d'un rapport qui s'appelle « Injustice climatique » qui est sorti quand en décembre ?
En octobre.
En octobre.
Ouais.
Donc en octobre 2024, je précise. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, je laisse.
Et ben donc du coup, c'est un rapport dont je propose de lire un petit bout de l'avant-propos parce que je pense qu'il va bien poser le décor. Donc voilà comment vous présentez ce rapport. Dans une société où les crises se succèdent et se superposent, notre jeunesse n'a d'autre choix que de se soulever face au changement climatique, aux discriminations, aux inégalités structurelles d'accès à la santé, à l'éducation et à la montée de l'extrême droite partout en Europe et au triomphe de ses idées partout dans les médias. Cette colère, souvent décriée voire réprimée, enclenche des mouvements de révolte que ce rapport choisira de qualifier de soulèvement populaire plutôt que d'émeute, en reconnaissance de leur nature profondément politique et sociale. Malgré les actions de vandalisme à la marge sur lesquelles toute l'attention est portée, il nous semble impossible de nier le message politique exprimé par l'immense majorité d'une jeunesse à bout de souffle, celui d'une volonté d'exister, de vivre dignement et de toucher du doigt l'égalité républicaine promise depuis les bancs de la maternelle. Alors on entre direct du coup dedans, hein, c'est vraiment un rapport en tout cas qui est super pédagogique, super pédagogue, qui est vraiment facile d'accès. Et je précise ici qu'il est accessible sur le site de GitHub. Vous pouvez le télécharger depuis chez vous, si Aurial peut trouver le... Ah ben voilà, Aurial vient déjà de le mettre dans le chat, merci à toi. Est-ce que avant qu'on rentre dans le fond, tu peux nous expliquer un peu la genèse de ce rapport, le pourquoi du comment
Oui, et je précise juste un truc, il est dispo gratuitement en PDF, mais aussi gratuitement en version papier.
Ok, d'accord.
On le livre à travers la France, tout est gratuit.
Ok, trop bien. Donc il faut le commander via le site.
Ouais. C'est sur le même lien, tout est disponible.
Super.
Et du coup, pour expliquer en fait la genèse du projet, en gros, au départ, c'était du coup il y a 2 ans et demi, Sarah Maria Amou et Sophia Arouche, donc les deux chercheuses du pôle recherche de GetUp, voulaient écrire un rapport sur l'engagement des jeunes de quartier populaire. Et en fait, elles ont commencé à faire des entretiens avec des jeunes, donc des entretiens d'une heure à 1h30. Et elles se sont rendues compte que les jeunes avaient beaucoup de choses à dire, mais parlaient beaucoup justement de justice climatique. Et donc elles se sont dit, en fait, autant faire un rapport à part entière qui va s'appeler... À l'époque, il n'y avait pas de nom. Mmh. On cherchait encore, on se disait peut-être écologie dans les quartiers populaires, justice climatique dans les quartiers populaires. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, donc on a pu récolter... en fait, elles ont fait des entretiens avec une centaine de jeunes à travers la France, issus de quartiers populaires. Elles ont fait des entretiens avec une trentaine d'experts et de militants de quartiers populaires. Et elles ont aussi fait un sondage Ipsos sur plus de 1000 jeunes à travers la France. Donc c'est assez conséquent en termes de données. Et en fait, tout ça, ça part du fait que le constat était qu'il n'existait pas de données positives sur les quartiers populaires. Quand on parle des quartiers populaires à la télé, c'est vandalisme, radicalisation, violence, drogue. Et nous, en fait, on voulait créer des données positives et se dire, en fait, on existe en dehors de ce spectre-là, de ce prisme. Et c'est pourquoi elles ont eu l'idée de faire le rapport sur l'engagement des jeunes, sur l'injustice climatique. Et du coup, ce titre-là, « Injustice climatique », il est sorti en fait de la bouche d'un des jeunes qu'on a interrogé et qui nous a dit moi ça me parle pas écologie, bifurcation écologique, justice climatique parce que moi je vois que des injustices dont l'injustice climatique. Et du coup on lui a rendu hommage avec le titre mais du coup voilà c'était un peu ça toute la naissance, tout le process.
Ok, et c'est combien d'années de mois de travail?
2 ans et demi.
2 ans et demi de travail, donc ouais. un gros, c'est vraiment un travail de production de données, quoi. Alors, vous dites même ce travail a vocation à s'éloigner des travaux sociologiques mainstream sur les quartiers, car nous ne documentons pas pour les autres, mais d'abord pour nous. Mmh. Et vous revendiquez d'un concept ou d'un mouvement qui est la recherche pirate. Qu'est-ce que c'est que la recherche pirate et pourquoi vous vous êtes inscrit là-dedans?
Du coup, la recherche pirate, c'est un peu ça, c'est ce process de créer nos propres données, de passer en fait, comme on voit que les instituts de sondages, de données, font pas des données pour nous, on s'est dit qu'on allait les créer pour nous-mêmes. C'est un peu ça, et c'est aussi créer un format accessible. Comme tu l'as dit, c'est hyper pédagogue, c'est pas écrit dans un langage hyper soutenu, parce qu'en fait, on veut que tout le monde puisse le lire, notamment les principaux concernés. Parce qu'en fait, ce rapport-là, ce livre, il est fait pour les principaux concernés aussi. Et le fait aussi de le rendre gratuit, ça, c'est pas donné à tous les rapports, tous les livres ne sont pas gratuits. Là, on fait en sorte que tout soit facilité pour que le lecteur y ait accès. Donc, téléchargeable gratuitement en PDF, on peut le recevoir par la poste totalement gratuitement. Enfin, voilà, c'est tout ce process faire de la recherche pirate, en fait. On fait la recherche pour nous, par nous.
Il y a Mondfulskank, désolée si j'écorche ton pseudo, qui dit excellent le coup de la recherche pirate. Mais c'est Fatima Ouassak aussi qui parle d'écologie pirate, c'est lié ou c'est...
Je ne sais pas si Sarah Marial avait pensé à Fatima Ouassak quand elle l'a écrit, mais peut-être que oui.
Peut-être pas trop bien. En tout cas, ça a l'air de convaincre le public de Poste. Et vous le faites vivre par des ateliers ou des choses comme ça ou
Principalement, on le donne à tout le monde, que ce soit les parlementaires, que ce soit les associations de l'écosystème climat mainstream, disons. On le donne aussi au public qui souhaite le lire. Et après, on essaie de l'adapter. Donc, par exemple, avec le pôle éducation, c'est assez transversal. On va essayer de co-créer des ateliers. Donc, on a fait une sorte de fresque, enfin un jeu fresque de l'injustice climatique. On a fait un atelier BD, parce qu'en fait, à la fin, je ne sais pas si tu as pu voir, mais du coup, il y a une BD.
Tu la montrer un peu à la caméra. Ouais. Quelle caméra serait la meilleure?
Ici?
Celle-là.
Ah, ok. Ouais. Du coup, c'est une BD qui explique un peu les enjeux. Et ça, en fait, on fait un atelier pour les plus jeunes. Donc, qui sont en primaire, collège, pour leur expliquer un peu, avec leurs mots, sans rentrer dans le fond du sujet, quels sont les enjeux de l'injustice climatique dans les quartiers populaires. Après, l'autre atelier dont je parlais, c'est un peu plus pour les plus grands. Donc voilà, on essaie quand même de l'adapter. Et si on peut le partager aussi à d'autres structures, nous, il n'y a pas de souci. On fait justement dans cette vision-là. Et aussi, on fait des présentations. À des associations, à des organisations pour justement les sensibiliser à cette question-là et pour relever un peu les enjeux de tout ça.
Trop bien. Eh bien, écoute, je te propose qu'on en parle plus profondément et qu'on plonge les pieds dans le plat. Ça se dit pas du tout. Qu'on plonge la tête la première.
Ouais, voilà.
Insert l'expression que vous voulez. donc, en gros, dans ce rapport, il y a, je dirais, deux gros aspects. Il y a un premier aspect de documentation de ces injustices climatiques, comme pour reprendre l'expression que vous utilisez, et un autre versant qui est vraiment documenter l'engagement des jeunes et vraiment des pistes d'action. Donc je te propose qu'on commence par le premier aspect et qu'en deuxième partie, on parle plutôt des questions d'engagement et des pistes soulevées. Donc tu l'as bien dit, par le fait que ce rapport a été construit sur des entretiens, c'est un rapport qui s'ancre vraiment dans le vécu concret des quartiers populaires. Et de ce vécu a émergé un concept qui est celui de discrimination environnementale. Et du coup, je propose qu'on prenne le temps de vraiment discuter ensemble de ce à quoi ressemble cette discrimination environnementale. Vous avez donné un peu quatre grands axes pour définir ce que c'est cette discrimination environnementale. Le premier point, évidemment, qui est peut-être celui auquel on va penser le plus vite, c'est la question de l'exposition aux pollutions et aux nuisances. Alors, vous donnez par exemple le cas de Gennevilliers où le risque industriel et la pollution, qu'elle ce soit sonore, olfactive ou toxique, c'est frappant. Elle est frappante là-bas. Il y a des dépôts pétroliers, il y a des usines Seveso. Mais vous parlez aussi de l'échangeur routier qui a été construit pour les Jeux Olympiques à Saint-Denis, ouais. Alors que pendant ce temps-là, dans le village olympique, il y avait des aspirateurs à pollution. Vous parlez aussi du projet du Grand Paris Express. On va là vous donner plein d'exemples. Donc, je te laisse peut-être rebondir sur ces exemples, ouais. D'en choisir un, si jamais il y en a un que tu veux.
Bah, par exemple, petit peu plus, si on parle de Pleyel, donc c'est ouais. L'échangeur routier à Saint-Denis. Mm-hmm. Il y a pendant des années la FCPE de Saint-Denis qui se mobilisait. Contre la construction de cet échangeur routier.
FCPE.
C'est la Fédération des parents d'élèves.
Ok, d'accord.
Je ne sais pas le mm-hmm. C sert à quoi, mais Fédération des parents d'élèves. Et en gros, ils se mobilisaient contre cet échangeur autoroutier parce mm-hmm. qu'en fait, il allait être construit à côté de l'école Anatole France. Donc, il allait être juste à côté des enfants. Mm-hmm. Bref, la construction, l'échangeur en lui-même, en fait, allait polluer toute cette zone-là. Donc, eux se sont fortement mobilisés, ils n'ont pas été forcément écoutés. Et du coup, en fait, c'est aussi ça qu'on veut soulever, c'est le deux poids, deux mesures. Le fait que, juste à côté, il y avait le village olympique. Comme mmh. tu l'as dit, il y avait les purificateurs d'air. Et à côté, il y avait des enfants issus de quartiers populaires mmh. qui avaient grandi toute leur vie ici, qui devaient subir cette pollution-là. Mmh. Et en fait, c'est assez emblématique dans les quartiers populaires, en banlieue surtout, en banlieue parisienne, mais aussi dans d'autres quartiers populaires en France. Les travaux d'aménagement, ils sont partout. Surtout dans le contexte des Jeux Olympiques, dans le contexte du Grand Paris. On essaie de construire, de construire, de construire, d'étendre en fait la métropole. Mais du coup, ça c'est au risque en fait de rendre malade des populations qui sont présentes depuis des années. Mmh. Et après, il y a tout ce process de gentrification qui s'accompagne où on va dire aux gens, dès que c'est construit, vous partez un peu plus loin. Mmh. Du coup, pour juste répondre à la mmh. question... Du coup, Démo Bidieu l'a dit, j'ai cru comprendre que certains des témoignages viennent de Saint-Denis. Est-ce qu'il y a d'autres villes représentées ? Ouais, il y en a d'autres. Il y a Dijon, il y a Metz. J'ai pas toute la liste, mais il y en a d'autres. Et comment ont été sélectionnés les témoignages ? En fait, la méthode de récolte de données, elle suit la méthode de recherche traditionnelle. Moi, j'ai pas écrit ce rapport, donc j'étais pas là il y a 2 ans et demi quand ça a été fait. Mais donc, par exemple, quand Ipsos a fait l'échantillon de personnes. C'est eux qui ont choisi les personnes. Nous, on avait déjà les questions, on avait déjà l'intuition des questions et mmh. on avait déjà à peu près cerné quelles seraient les réponses. On leur a donné les questions et c'était à eux de créer un échantillon de personnes assez représentatif. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup merci pour ta question, Démo Bidieu. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, j'en vois plein. Du coup, cette question de la pollution et des nuisances, c'est quelque chose... Est-ce que tu pourrais décrire un peu comment est-ce que c'est ressorti justement dans les entretiens ? Comment est-ce que les conséquences directes sont déjà vécues par ouais. les jeunes, etc.
Complètement. En fait, ça se remarque dès qu'on grandit dans ces espaces-là, tout est pollué. On se balade, tout est gris, tout est bétonné, il mmh. Y a des constructions de partout, donc forcément, visuellement parlant, ça pollue notre champ de vision, disons. Le bruit qui est constant, donc mmh. Des travaux tout le temps, les usines qui travaillent à fond, ça crée du bruit. Et après, en termes de pollution atmosphérique, en fait, ça touche directement les personnes. Donc il y a énormément de personnes qui sont malades, qui ont des maladies pulmonaires, de l'asthme sévère. Surtout dans ces zones qui sont fortement polluées. Par exemple, la porte de Bagnolet, c'est une zone qui est fortement bétonnée. Mmh. Et c'est aussi la zone où, par exemple, Air Paris, en 2022, comptait le plus de pollution atmosphérique. Enfin, ça frôlait les 85% de pollution atmosphérique, ce qui est énorme mmh. quand on se rend compte qu'on se balade et il y a 85% des molécules autour de nous qui sont des molécules d'air pollué. C'est mmh. hyper dangereux. Du coup, ça se ressent même dans les échanges qu'on avait eus. Mmh. Et j'invite beaucoup les gens à regarder les verbatims qu'il y a dans le rapport, parce qu'en fait, ça se remarque. C'est juste que tout est autour de nous, il suffit juste de regarder.
Mmh. Bah, y a Olaven d'ailleurs qui dit « Je passe beaucoup de temps dans un bled dans les bois, mais je ressens la même chose que ce que dit votre invité, c'est ça l'écologie avec ses variations. Mmh. » Je ne sais pas où tu es, Olaven, du coup, si tu veux le dire dans un commentaire, n'hésite pas. Mais tu l'as dit, du coup, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont déjà malades au présent. Et là, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'écologie, dans l'écologie mainstream et dominante, on va souvent parler de les générations futures. Mm. Alors qu'en fait, là, il ne s'agit même pas de quelque chose au futur, il s'agit de quelque chose au présent.
Ouais, de fou, parce que on place le changement climatique dans un éloignement spatio-temporel. On parle toujours de 2050, 2030. Ça nous paraît hyper loin, 2100. De manière spatiale, on dit toujours que ça arrive loin en Afrique, en Asie, etc. Mais en fait, ça arrive déjà chez nous. Si on regarde au niveau de la France, dans l'Hexagone, les quartiers populaires, qu'ils soient en Île-de-France ou non, ils sont déjà touchés. Par exemple, les îlots de chaleur qui existent dans les quartiers populaires, c'est énorme. La canicule de 2003, pourtant c'était il y a longtemps, là, 2003, elle a fait 19 000 morts à travers la France. Et les deux départements les plus touchés, c'était le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Donc c'est pas pour rien. Et ces canicules-là, quand on sait qu'avec le changement climatique, elles vont s'accélérer et s'intensifier, on se rend compte que on est déjà touché. Quand on oublie un peu l'Hexagone, quand on regarde Mayotte ou quand on regarde les Antilles, on se rend compte que ces populations-là sont déjà touchées. Et donc il y a vraiment un deux poids deux mesures dans la manière de conceptualiser les risques du changement climatique. Et un peu ce truc de si c'est pas des gens qui sont dominants, c'est peut-être pas si important que ça. Et justement, c'est ça que ce rapport veut soulever, c'est le fait que en fait ça arrive déjà pour des populations qui sont déjà discriminées et marginalisées.
Mais pour étayer ça, d'ailleurs, vous donnez des chiffres. Vous dites donc que lors de la canicule de 2003, le deuxième département le plus sévèrement touché après le Val-de-Marne était la Seine-Saint-Denis, avec on avait donc une surmortalité de plus 171% dans le Val-de-Marne et une surmortalité de plus 160% en Seine-Saint-Denis. Donc c'est absolument énorme. Et vous dites, malgré ces chiffres terrifiants, la création d'espaces verts n'a pas du tout considérablement augmenté. Et en fait, vous en arrivez à dire qu'à ce niveau-là, vous parlez même en fait d'une défavorisation sociale organisée et délibérée par l'État. Est-ce que tu veux un peu...
En fait, c'est que ces inégalités, elles sont structurelles. Si on regarde historiquement, les habitants de quartiers populaires, ils ont été mis dans ces banlieues-là, dans ces lieux bannis, parce qu'on ne les voulait pas. Les immigrés, principalement, quand ils venaient d'arriver, on les avait mis dans des bidonvilles. Le bidonville de Nanterre, les bidonvilles qu'il y a en Seine-Saint-Denis aussi. Ensuite, pour remplacer ces bidonvilles-là, on a créé des tours. Ces tours étaient censés être éphémères. C'était pour faire travailler les personnes. Aujourd'hui, ces tours, elles sont restées. Et maintenant, on veut créer de la gentrification. On veut étendre l'espace urbain plus riche, disons, et faire partir ces populations. En fait, ces personnes-là, elles sont toujours vues comme des habitants éphémères. On leur nie, en fait, leur ancrage territorial. Alors que là, aujourd'hui, les habitants de quartier populaire, ils ont un ancrage territorial. Ils sont bien ancrés chez eux. Enfin, c'est chez eux, maintenant. Et en fait, c'est ça où on dit que ces inégalités-là sont structurelles. Ces personnes-là ne sont pas les bienvenues. Et on ne les considère pas comme des Français à part entière, mais plutôt comme des citoyens de seconde zone.
Tu parlerais de ségrégation, de environnementale.
Il y en a certains qui parlent de ségrégation territoriale. On peut même parler de... Dans le domaine de l'éducation, il y avait Youssef Souidi qui parlait de sécession scolaire, de ségrégation scolaire. Ça se retrouve, on peut le transporter... On peut faire l'analogie aussi avec le territoire.
Mais il y a toujours des mobidules qui disent « Ce que vous faites est un travail de fourmi, l'ampleur du sujet est infinie mais nécessaire. Merci d'ajouter une pierre à l'édifice. »
Merci
pour tes commentaires, c'est super chouette. Oui. Et donc, Valeurs anarchistes, disait « Attention à ne pas se concentrer que sur la pollution visible ou juste le climat. » Et tout à fait, mais ne t'inquiète pas, en effet, dans le concept de discrimination environnementale, vous relevez plein d'autres choses. On a parlé donc de l'exposition aux pollutions et aux nuisances. On a parlé d'inégalités dans la prévention des risques. Oui. Je ne sais pas si tu veux rebondir un peu là-dessus.
Par exemple, dans la prévention des risques, un aspect qu'on oublie souvent, c'est la santé. Je le disais un peu tout à l'heure, mais là, aujourd'hui, quand on parle de prévention, on va penser docteur. Et la Seine-Saint-Denis, c'est le premier désert médical français. Donc, c'est énorme quand on voit qu'il y a environ 93% de déserts médicaux. Enfin, je ne sais plus comment on l'avait dit exactement, mais en gros... quand on compare à Paris, c'est 93% versus 28% de déserts médicaux. Et en fait, c'est énorme quand on se dit que c'est la population qui va être la plus impactée par la pollution atmosphérique, mais qui aura moins accès à des docteurs, à des médecins, à des soins, à des médecins généralistes. Et quand on regarde, médecins généralistes, c'est un peu la base, mais quand on veut des médecins spécialisés, des pneumologues, des cardiologues, c'est encore plus compliqué. Donc forcément, quand on n'a pas le confort de vie qui va avec, où on peut se dire, bon, c'est pas grave, j'attendrai un peu 6 mois, etc., c'est encore plus difficile. Quand les habitants de quartiers populaires ont accès à des métiers plus précaires, un niveau de vie moins confortable, En fait, là, on parle d'urgence. Il n'y a pas le temps d'attendre 6 mois pour aller trouver un médecin qui va sûrement même pas trouver du premier coup ce qu'on a. Il y a ce rapport du coup à la prévention qui est fortement inégalitaire et qui entre dans notre définition de discrimination environnementale. Mmh. Après, il y a deux autres aspects qu'on note dans la discrimination environnementale. C'est l'accès à un environnement sain. Mmh. Donc, par exemple, dans les villes, à Paris, quand il y a des travaux d'aménagement, il y a au moins 50% de l'espace qui est alloué à des espaces verts pour contrebalancer un peu ces constructions. Et en fait, dans des villes de banlieue, donc notamment du 93, ça redescend à 10% ce chiffre. Donc ça montre bien qu'en fait, et même ça, c'est visuellement, enfin ça se voit visuellement, quand on se balade dans Paris centre et quand on se balade à Aubervilliers, par exemple, on n'a pas le même niveau de végétalisation. Mmh. On n'a pas, on voit pas la même chose. Et ça, en fait, c'est ce qui aussi augmente les îlots de chaleur, parce que quand on est dans une ville qui est fortement bétonnée, avec beaucoup de, quand on a que des blocs et que du goudron, forcément, dès qu'il y aura un moment de chaleur, ça va créer une sorte de four. Mmh. Et quand il n'y a pas les parcs pour les enfants, quand il n'y a pas d'espace de désaltération, forcément, c'est ce qui crée
c'est un
le
cercle
plus de
vicieux. Ouais. Et là-dedans, je trouvais ça, parce que donc il y a la question des espaces verts, tu as parlé de la question de la santé. Il y avait aussi un exemple que vous preniez que je trouve très frappant, c'est aussi le rapport à l'alimentation. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que ça fait vraiment partie des sujets qui sont beaucoup traités quand on parle d'écologie, dans les éco-gestes. Il y a le côté changer son régime alimentaire, devenir végé, manger local. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus justement sur l'ampleur du décalage qui existe dans l'accès à l'alimentation?
Carrément, il y avait un chiffre qui nous avait choqués. C'était que quand on avait demandé à des jeunes s'ils reconnaissaient une discrimination environnementale, quand ils répondaient oui, il y avait 100% des jeunes qui considéraient que le manque d'accès à une alimentation saine était une discrimination environnementale. Mmh. Et ça peut être hyper étonnant quand on a ce cliché justement qui est des jeunes de quartier populaire perpétué par les médias, on leur dit « ouais, ils s'en foutent de toute façon, ça ne les intéresse pas ». En fait, ce n'est même pas la notion même de « ils s'en foutent, c'est plus ». En fait, est-ce qu'ils ont le choix de manger autre chose que des fast-foods? Est-ce qu'on leur donne le choix? Et quand bien même ils voudraient manger que des fast-foods, est-ce qu'en face, on leur laisse avoir autre chose? En fait, ça, c'est sûr que quand on n'a pas de biocoop, de bio c'est bon à côté de chez nous, et que quand on voit que la politique urbaine favorise certains commerces et pas d'autres, c'est sûr que ça aussi, c'est une inégalité. Aujourd'hui, on nous parle de manger bio, mais quand tout est transformé, en fait, c'est pas ça la priorité. C'est de manger déjà des produits sains, même pas des produits bio, des produits sains pour notre santé. Du coup, ça, c'était un chiffre qui nous avait fortement marqué aussi.
Oui, parce que pour expliquer un petit peu, il y a une question que vous avez posée aux jeunes, je crois que c'était quelles sont les injustices climatiques ou environnementales?
Discrimination environnementale.
Quelles sont les discriminations environnementales que tu ressens le plus? Donc ça, c'était vraiment le numéro un, et c'est vrai que moi, ça m'avait frappé.
Il y avait 20% pour la pollution atmosphérique, donc c'est peu comparé à ce qu'on aurait imaginé. Ouais. Il y avait autre chose aussi... Si, c'était 20% pour environnement sain. Donc un environnement vert, végétalisé, etc.
Et les espaces verts, Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment pourtant l'un des poncifs qui est les plus mainstream quand on parle d'écologie. C'est vraiment chacun sa part. Et si vous mangez moins de viande, etc. Alors que dans la BD dont tu parlais à la fin du rapport, il y a une case justement qui dit alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, kebab ou kebab?
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Je ne sais pas si on le voit bien.
Peut-être pour...
Et après, le dernier point aussi de la discrimination environnementale, donc le quatrième type, c'est le manque d'accès à l'engagement. Parce que les associations climat mainstream, elles sont présentes dans des endroits, mais pas forcément dans d'autres. C'est que récemment, en fait, qu'il y a eu des maisons de l'écologie. La première maison de l'écologie, c'était Vert Dragon. Mais avant ça, il n'y avait pas de présence.
Peut-être que tu peux présenter Vert Dragon à celles et ceux qui ne connaissent pas.
Du coup, Vert Dragon, c'était, il me semble bien, que c'était à l'initiative de Fatima Wassak.
Il me semble, ou de Front de Mer, de manière générale.
Donc Front de Mer, c'est une organisation qui était, dont Fatima Wassak fait partie, et il me semble qu'elle est présidente, si je ne me trompe pas.
Je ne saurais pas dire. Bon, je sais qu'elle est fondatrice, mais ouais. Je ne sais pas si elle est
présidente. Du coup, elle est fondatrice. Et donc, en fait, c'est un collectif de femmes, majoritairement. Ouais, il me semble que c'est que des femmes, des mamans, qui, justement, en fait, étaient un peu les premières à parler d'écologie dans les quartiers populaires. Mmh. Et du coup, Fatima Wassak, elle a écrit un livre qui s'appelle « Pour une écologie pirate », où elle parle justement de ce rapport à l'écologie dans les quartiers populaires, que je vous recommande.
Et donc, Vert Dragon, c'est ce que...
Du coup, c'est leur espace, en fait. C'est, je ne sais plus où est-ce que c'est précisément.
Mais peut-être que Rial pourra nous le mettre dans le...
Oui, mais c'est en Ile-de-France. Et du coup, c'était un peu la première présence, j'ai l'impression, d'espace écolo, disons, dans les quartiers populaires. Après, il y a eu l'école populaire du climat devant le climat.
Qui est
à Saint-Ouen. Il y a eu la maison de l'écologie de Pic Pic Environnement. Il me semble qu'elle aussi, elle est à Saint-Ouen. Donc voilà, en fait, c'est des implantations qui sont très récentes comparées au mouvement écolo qui date d'il y a plus longtemps. Et en fait, ces mouvements écolos...
Bagnolet, Vert Dragon.
Bagnolet, j'avais peur de dire une bêtise, mais Bagnolet. Et du coup, c'est des mouvements qui apparaissent... Enfin, les mouvements écolos mainstream, ils ne sont pas présents, ils ne parlent pas forcément aux habitants de quartiers populaires parce qu'ils ne leur parlent pas avec leurs préoccupations. Et même dans le rapport, il y avait 53% des jeunes qui disaient qu'ils ne s'engageaient pas par manque de temps. Et ça, c'est aussi une question à prendre en compte quand on sait que les jeunes de quartier populaire, ils ont des préoccupations que d'autres jeunes n'ont pas forcément. Ils vont peut-être avoir des boulots parce qu'ils sont plus précaires. Après ça, c'est pas forcément que les jeunes de quartier populaire, mais c'est à prendre en compte. Quand on habite en quartier populaire et qu'il faut aller dans la métropole ou dans la grande ville alentour et que c'est mal desservi, ça nous prend du temps. Donc au quotidien, ça peut être difficile. En fait, il y a plein de questions comme ça qui ne sont pas forcément posées. Et après, il y a aussi le langage qu'on a qui ne parle pas forcément aux jeunes de quartier populaire. Et ça, c'est aussi souvent quelque chose qu'on a eu qui est, en fait, ça ne nous parle pas. Genre, c'est pas notre préoccupation. Et nous, on voit en fait ce rapport-là et même la question de l'écologie, c'est plus une porte d'entrée. Il faut aussi la penser, il faut avoir une posture où on prend en compte les priorités des jeunes de quartier populaire. Donc aujourd'hui, leur priorité, c'est quoi? C'est se nourrir, se loger, trouver un taf. Et si on leur dit, oui, maintenant, il faut arrêter de manger de la viande ou il faut commencer à manger bio, en fait, ça ne rentre pas forcément dans leurs préoccupations, dans leurs priorités au quotidien. Il faut savoir en fait quelles sont les problématiques qui existent dans ces territoires-là pour mieux... appréhender en fait ces questions-là.
Vous parlez dans le rapport du principe de l'indisponibilité biographique, c'est de ça dont vous parlez là-dedans, et vous parlez aussi du manque d'accès aux structures comme des pistes cyclables, des choses comme ça. C'est vrai que ça c'est aussi intéressant parce que pareil, prendre le vélo au lieu de sa voiture, c'est aussi ça fait vraiment partie des poncifs quoi.
Quand le territoire est pas habilité pour, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, on voit par exemple des pistes cyclables naître dans certains territoires, mais ça existe que quand y a de la gentrification qui s'opère. Et ça, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est aussi le message qu'on porte aux habitants. On crée ça parce qu'il y a une nouvelle population qui arrive, et pas pour vous. C'est parce qu'on va vous remplacer. Donc voilà.
Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tous ces constats, constatez, vous appelez ça une culpabilisation institutionnalisée des classes populaires, qui reste quand même l'idée de... On pointe ces classes-là comme non volontaires, réfractaires à l'écologie.
Oui, il y a le truc de... ils sont où pendant les marches pour le climat? Ils sont où pour ces marches-là, etc. Et en fait, il y a la question de... Mais est-ce que vous savez ce que ça fait d'aller en manif quand on a ces têtes-là? Il y a beaucoup de jeunes en fait, qui nous disaient « Moi, je ne vais pas en manifestation maintenant parce que j'ai peur de la police. » Parce que j'ai tellement... Enfin, c'est aussi une génération qui a grandi avec les Yedé Bouna, les Adama Traoré, Naël. Et en fait, c'est une génération qui a peur de la police, qui a peur des représailles, qui a peur d'aller en manif et potentiellement pas revenir chez soi, aller en manif et se faire tabasser. En fait, le rapport à la manifestation, à l'engagement est différent aussi.
En fait, je trouve qu'on sent vraiment, à travers tout ça, toutes ces données, qu'au final, militer activement pour l'écologie, ça, c'est presque un luxe, en fait, dans l'écologie mainstream, quoi.
C'est aussi la manière dont ça a été communiquer. C'était toujours pour une certaine tranche de la population. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu ce stéréotype du bobo écolo qui est confortable et voilà, qui s'offre le luxe de pouvoir penser écologie.
Mmh. Il y a des mobidules qui demandent si vous identifiez des limites à ce travail, à ce rapport, s'il y a des choses que vous referiez différemment aujourd'hui ou...
J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des difficultés particulières parce que je pense que notre force c'était de pouvoir parler à des gens qui nous ressemblent, donc il y avait cette facilité en fait d'échanger. Mmh. Je pense que la petite difficulté c'était que les jeunes se censuraient, n'étaient pas sûrs d'avoir les bons termes, donc n'osaient pas forcément parler. Mais ce qui a été la force, je pense, de ce travail de recherche, c'est que les filles, Sarah Maria et Sophia, elles ont pris le temps de leur parler, de les rassurer, de leur dire qu'il n'y avait pas de mauvaise ou de bonne réponse. Et en fait, c'est sûr qu'un entretien de 15 minutes, il n'aurait pas suffi. Mmh. Et que justement, les entretiens longs ont permis justement... d'ouvrir en fait de laisser la parole en fait s'exprimer, donc je sais pas, en fait j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des limites à part l'argent en général. Et encore on a été accompagnés, donc ça allait sur ce niveau là mais et peut-être avoir un échantillon encore plus grand qui aurait été plus intéressant, mais sinon je vois pas d'autres limites.
Oui, et Valeur Anarchiste, pour rebondir sur l'idée de ils étaient où ils étaient où les jeunes de quartier populaire dans les manifs, Valeurs Anarchistes nous dit à l'inverse, ils et elles étaient où les écolos quand il y a eu des soucis dans les quartiers. Du coup, le message est difficile à entendre pour les quartiers, je pense.
Oui, il y a aussi ça, il y a cette fracture, en fait, il y a cette dissonance qu'il y a. Parfois, les jeunes de quartier populaire, ils se sentent seuls parce que forcément, dès qu'ils vont se soulever, on va dire que c'est une émeute. Donc il y a aussi ce langage du sauvage, du barbare, et on les laisse un peu dans leur délire entre guillemets, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu on n'a pas vu souvent les mouvements écolos se mobiliser justement quand il y a de violences policières. En fait après c'est le fait de créer des fractures qui pose problème. Et là l'objectif c'est plus de se dire en fait on va tous être touchés par le changement climatique, certains plus que d'autres, mais venez, on fait un front commun et on discute entre nous. Mmh. Et je pense que ce qui est aussi à retenir du rapport, c'est de créer de la discussion entre les différents groupes, et pas seulement des groupes sociaux, mais aussi des groupes générationnels. Mmh. Donc parler avec les plus grands, et les plus grands justement écouter les jeunes et leur apprendre aussi des choses que nous, les jeunes, on n'a pas forcément acquis. Donc voilà.
Et là-dessus, je vous recommande vraiment, vous pouvez voir même sur YouTube la web-série No Daron dont tu parlais tout à l'heure, qui est sur la chaîne de GetUp aussi.
Il y a No Daron de GetUp. Ah oui. En gros, l'objectif, c'était de réunir un enfant et son parent, et donc ils se posaient des questions. C'est ça. C'est hyper intéressant. Aller voir, parce que c'est touchant, c'est intéressant, et ça permet de voir en fait une discussion intergénérationnelle.
Ouais. Je vous le conseille vraiment, c'est... Moi, j'ai toujours une petite larme qui dans ces cas-là, mais c'était parce que je suis une Madeleine. Mais oui, et pour rebondir là-dessus, je trouve aussi que c'est intéressant parce que même des fois, il y a des groupes écolos, majoritairement blancs, etc., qui vont beaucoup être en mode, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des personnes défavorisées qui s'allient à nous. Mmh. Et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément toujours la bonne logique aussi, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'essayer de ramener les personnes à l'Académie du Climat pour y aller vite, pour symboliser par exemple, mais qu'il s'agit aussi, enfin plutôt qu'il y a une démarche à faire des groupes les plus favorisés pour rejoindre.
Ouais. En fait, la posture, c'est pas de faire pour eux, mais plus de faire avec eux.
Ouais.
Et de se dire, est-ce qu'on a cette posture un peu de colon, entre guillemets, où on va aller chez eux pour leur apprendre la vie? Ou est-ce qu'on va se dire, bon, on va avoir une posture humble et leur dire, vous connaissez déjà votre territoire, vous savez déjà très bien faire les choses. Et en plus, c'est aussi pour ça que dans le rapport, on dit que les habitants de quartier populaire, c'est des écolos involontaires, mais on ne le glamourise pas non plus. C'est pas, regardez, c'est super bien, ils galèrent, du coup, ils sont écolos. Non, ils sont écolos involontaires de par leur héritage culturel et par aussi économie, en fait. Donc, ils savent déjà faire et ils connaissent aussi leur territoire. Donc, ils sont tout à fait légitimes d'en parler. Il y a aussi tout cet enjeu de légitimité qu'on a ôté des habitants de quartiers populaires. C'est pour ça que ça étonne souvent de voir des jeunes de quartiers populaires parler d'écologie, parce qu'on ne leur a jamais donné cette légitimité. c'est aussi ça qui ressortait des entretiens avec, avec les jeunes, c'était qu'ils ne se sentaient pas légitimes d'en parler. Ils se disaient, mais moi, en fait, je ne mange pas bio, je ne fais pas de vélo tout le temps, etc. Mais quand tu avais tes vêtements qui n'étaient pas ta taille, tu les donnais. Quand la nourriture, tu ne l'as pas finie, tu ne l'as jamais jetée. Tu l'as récupérée, tu l'as donnée à d'autres, etc. Y a plein de petits réflexes qu'eux ont hérités de leurs parents, qui sont eux-mêmes hérités de leur culture d'origine ou du fait que c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de solidarité, que la précarité amène forcément l'économie, l'économie financière. Donc voilà.
Oui, puis au final, de toute façon, celles et ceux qui polluent le plus, on sait très bien, c'est les 1% les plus riches, quoi. Et tout ça, forcément, on le survole depuis tout à l'heure, mais parler de discrimination environnementale, en fait, ça implique nécessairement de parler de racisme environnemental. Déjà, est-ce que tu veux nous définir ce que c'est le racisme environnemental?
En gros, le racisme environnemental, c'est le fait de dire que le changement climatique va toucher tout le monde, mais qui va impacter certaines populations en particulier, des populations qui sont déjà marginalisées. Et ces populations marginalisées, elles le sont à cause d'un système qu'on a hérité, qui vient du colonialisme, qui vient de l'esclavage. Si on regarde à l'échelle planétaire, ça va être les pays d'Afrique, les pays d'Asie, les pays d'Amérique du Sud, donc des pays anciennement colonisés, qui aujourd'hui, par exemple, si on regarde l'Afrique, en vrai, ça doit être moins de 10% de la production de gaz à effet de serre mondiale, et pourtant, c'est 17 des 20 pays les plus touchés par le changement climatique. L'Asie, ça va être plein d'îles qui vont être submergées, alors qu'en vrai, aujourd'hui, on dit que la Chine pollue beaucoup et que l'Inde pollue beaucoup, mais quand on compare par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, c'est pas les plus pollueurs. Y a aussi ce rapport de responsabilité historique que, par exemple, l'Inde et la Chine n'ont pas. Voilà. Et à l'échelle de la France, il y a, par exemple, Mayotte, qui est typiquement, quand on est à Mayotte, on ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau, ou alors l'eau est jaune, et marron, que sais-je. Et ça, on ne l'aurait jamais imaginé en hexagone. Ça aurait été impensable. Sinon, il y a l'autre exemple, qui est l'exemple du chlordécone, en Martinique et en Guadeloupe. Et en gros, pour expliquer un peu ce que c'est le chlordécone, c'est une molécule qui a été utilisée dans les pesticides à destination des bananeraies, donc des plantations de bananes, qui étaient exploitées par des agriculteurs. On savait que ce pesticide était cancérigène. On l'a laissé être utilisé dans ces territoires-là. Et aujourd'hui, il y a une vague de cancer de la prostate. Et les plantations sont intoxiquées pour 7 siècles, ce qui est énorme. C'est aussi un cas de racisme environnemental.
Je voudrais dire bienvenue à toutes celles et ceux qui nous viennent du raid de Stupid Economics. Et pour vous remettre un peu le contexte, on est donc avec Rania Daki, qui vient aujourd'hui parler en tant que pour représenter l'association Get Up et pour nous parler d'un rapport qui est, est-ce que tu peux le remontrer, le rapport Injustice Climatique qui est sorti en octobre 2024 et qui documente donc les discriminations environnementales, notamment subies par la jeunesse des quartiers populaires. Et donc, on est en train de parler du lien, je pourrais dire, du lien vraiment structurel qui existe entre les soulèvements des quartiers populaires et les questions décoloniales. Je trouve ça intéressant aussi parce que je trouve qu'on entend souvent parler de la convergence des luttes. Et j'ai l'impression que votre approche à vous, elle dépasse un peu ça en disant il ne s'agit pas travailler ensemble avec d'un côté le décolonialisme et de l'autre côté l'écologie ou les quartiers populaires, mais il s'agit en fait de dire il ne peut pas y avoir d'écologie sans décolonialisme. Donc tu parlais de la crise de l'eau à Mayotte. Pour toi, il y a vraiment un lien direct entre ce qui se passe, par exemple, les changeurs autoroutiers à côté de Saint-Denis et la crise de l'eau
Mayotte. C'est comment on considère ces populations-là. Et forcément, on ne va pas se mentir, les habitants de quartiers populaires, c'est majoritairement des populations issues de l'immigration. Donc, quel regard on pose sur ces personnes-là? Mayotte, c'est des populations noires qui sont anciennement colonisées, qui font partie d'un département français, mais il y a quand même cet impact colonial qui est très, très présent. Les populations issues de l'immigration en France, c'est des populations anciennement colonisées aussi. C'est pour ça qu'elles sont venues en France, parce qu'il y a ce rapport avec la France. Quel regard on a, en fait, sur ces populations-là? Comment on est considéré? Est-ce que, et franchement, là on le voit même avec le cyclone Chido, les habitations n'étaient pas faites pour ce cyclone-là. Donc aujourd'hui, il y a eu plein de morts. Aujourd'hui, ce n'est même pas encore très bien documenté, alors que c'est la France. Si ça avait été dans le nord de la France, dans le sud de la France, ça aurait été documenté. Là, il y a un deux poids, deux mesures qui est flagrant. Et ouais, en fait, ce n'est pas faire d'un côté les uns et d'un côté les autres et on se tient la main. Non, c'est... Dans tous les cas, les deux sont liés, en fait. Ça doit aller ensemble, en fait. C'est pas... c'est intrinsèquement lié, en fait.
Ouais, d'autant plus que non seulement c'est pas bien documenté, mais en plus, on a un président qui va dire quand même à des gens là-bas qui doivent être reconnaissants... Ouais.
Ça, c'est ouf.
Reconnaissants d'être en France, quoi.
C'est une dinguerie. Ça, c'est hyper choquant. C'est hyper choquant et c'est violent. C'est très violent de dire ça à une population. Et en fait, moi, ça m'a rappelé aussi... quand Nicolas Sarkozy il est allé dans les quartiers et qu'il leur a dit on va nettoyer ça, on va les nettoyer au Karcher. En fait, c'est un peu soyez heureux qu'on vous tolère, qu'on vous laisse marcher ici. Mais qui a demandé en fait à être là? Ça faisait très colon ce moment. Les deux moments faisaient très... C'est hyper violent en fait pour la population locale. Surtout que c'était des populations qui venaient d'être sinistrées, qui avaient perdu leurs proches, qui avaient perdu leur maison, c'était très indécent.
Oui, c'est vrai que le parallèle est frappant entre ce que disait Macron et ce que disait Sarkozy, en effet. Et donc on le disait, on tourne autour aussi depuis le début, le rapport, il n'est pas là juste pour constater cette discrimination, il est là vraiment pour proposer une autre façon d'aborder l'écologie. Et je voudrais revenir sur un terme que tu as utilisé tout à l'heure, qui est celui d'écologiste involontaire. Parce que donc vous prenez une écologie donc populaire. Et je trouve ça intéressant parce que vous dites, je vous cite, « Quand on parle d'écologie en dehors du quartier, dans d'autres sphères politiques et militantes, en fait, on ne parle pas du tout de la même chose. » Et c'est vrai qu'en fait, du coup, j'ai l'impression que quand on parle d'écologie populaire, on fait forcément un profond renouvellement sémantique du mot écologie. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais revenir justement sur ce concept d'écologiste involontaire. Qu'est-ce que c'est pour vous, ce concept-là?
En fait, c'est le fait que nous, on va nommer les choses différemment. On va faire des... Par exemple, les habitants de quartiers populaires, ils vont avoir plein de pratiques écolo, mais qu'eux ne vont pas considérer comme écologistes. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette illégitimité qu'ils ressentent quand ils parlent d'écologie. C'est parce qu'en fait, ils se disent, ouais, mais comme telle action n'a pas été étiquetée en tant qu'action écolo, ben, je ne le suis pas. Parce qu'en fait, il y a eu toute une communication autour de l'écologie. C'est devenu un truc très... il y a eu le greenwashing, il y a eu tout ce process de communication autour de ce mouvement... Et en fait, il y a aussi cet accaparement en fait de cette notion-là par des populations qui sont très différentes de la population issue de quartiers populaires. Et c'est pour ça que même moi j'apprécie plus le terme d'injustice climatique ou de justice climatique que le mot écologie, parce qu'en fait le mot écologie en lui-même il a été dépolitisé. Quand on a beaucoup pensé écologie comme un mouvement à part, même en politique les partis écolos ils ont toujours été un peu à part. Même si aujourd'hui, il y a toute une nouvelle dynamique qui a été créée. Il y a vraiment cette intention des partis écolos de parler à plusieurs populations, de parler de justice sociale, etc. Mais pendant très longtemps, l'écologie, c'était toujours un peu le truc à côté, le petit luxe qu'on se permettait quand on avait assez d'argent. Et du coup, je trouve que le mot justice climatique, il s'imbrique un peu plus. Et il s'imbrique mieux dans le terme de justice sociale. Il prend plus en compte cette dynamique sociale, cette dynamique décoloniale qu'il y a, cette dynamique antiraciste, je trouve, qu'il y a qui devrait en fait faire partie de l'écologie. Mais comme pendant longtemps, ça a été dépolitisé, on parlait vraiment d'écologie comme quelque chose qui ne devait pas prendre en compte le social, le féminisme, l'antiracisme, ça a été un peu... on a un peu enlevé son essence, en fait, au mot écologie.
Et aujourd'hui, vous, chez GetUp, vous distinguez justice sociale et justice climatique ou vous mettez ça dans le même panier?
La justice sociale, c'est vraiment permettre l'égalité de tous de manière sociale. Et la justice climatique, en fait, ça s'imbrique un peu dans ça. C'est une sorte de partie de la justice sociale.
Et pour revenir un petit peu, du coup, à cette question d'écologiste involontaire, je trouvais ça aussi intéressant parce que, donc, tu l'as bien expliqué, on pourrait appeler ça, peut-être que d'aucuns appelleraient ça des éco-gestes d'une certaine façon qui ne sont pas pensée comme telle à la base. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'était que je crois que c'était Diongou Traoré qui était donc une des personnes que vous avez interrogées dans ce rapport et qui disait, elle, qu'en fait, au-dessus de la notion d'écologie, il y avait même la notion de communauté. Mmh. Et que c'était ça qui prédominait. J'ai l'impression que ça ressortait pas mal, ça, dans ouais. les...
Bah, du coup, Diongou Traoré, elle est présidente de l'association Framoisins Citoyennes, donc une association aux Framoisins à Saint-Denis. Donc juste pour recontextualiser, les Framoisins, c'est un quartier de Saint-Denis où il y a une cité. Enfin, c'est une cité, en fait, à Saint-Denis. Et les blocs vont disparaître petit à petit parce que, du coup, il y a eu un projet de rénovation. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un bloc qui se détruit, mais juste à côté des autres. Donc, la poussière va chez les habitants. Et en plus, il y a tout un process de gentrification. Surtout que ces blocs-là, enfin, ces bâtiments-là n'étaient pas forcément en mauvais état. Ils étaient assez bien. Les appartements étaient assez grands, assez spacieux. Donc... pour recontextualiser, en fait, il y a un process de gentrification là-bas. Et du coup, ouais, Diongou Traoré, elle disait qu'il y a ce sentiment de solidarité qui est très présent et de communauté qui est très présent dans les quartiers populaires. Et ça, c'est vrai. Et même, on le voit à quel point les habitants de quartiers populaires, ils sont chauvins. ils aiment bien leur quartier, ils aiment bien leur ville. Et en fait, ça prouve aussi à quel point ils ont un ancrage territorial. C'est aussi pour ça que quand on parle aux associations climat qui veulent s'implanter ou qui veulent parler à des habitants de quartiers populaires, on leur dit, en fait, un des meilleurs moyens d'aller leur parler, c'est déjà d'avoir cette posture un peu humble, de dire on veut faire avec vous et pas pour vous, mais aussi de parler aux community leaders, c'est-à-dire, un grand de la cité, un père de famille qui a une bonne implantation dans le quartier, une petite association qu'on pourrait prendre un peu pour une micro-asso, mais en fait qui est très importante pour le quartier et qui fait un peu tourner le quartier. Donc ça, c'est hyper important, en fait, de se rendre compte des dynamiques qui existent et du sentiment de communauté qui est très, très présent dans les quartiers populaires.
Mmh. Bah, depuis tout à l'heure, pour continuer là-dessus, tu parles beaucoup, en fait, d'ancrage territorial, en effet. Et je trouve que ça, c'est aussi tout un point, un aspect très important du renouvellement que vous apportez, je trouve, sémantiquement, du concept d'écologie. Mmh. Parce qu'en fait, ça pose nécessairement la question du rapport à la terre et la nature, qui est peut-être le mot le plus utilisé, justement, quand on parle d'écologie. Et je trouve que, justement, en matière d'écologie, on a l'habitude des réflexions traditionnelles sur le lien entre l'être humain et son environnement. Mais que ce soit en anthropologie, en philo, en politique. Mais à t'écouter et à lire le rapport, en effet, je trouve que ça donne l'impression que penser l'écologie depuis les quartiers populaires, ça engage nécessairement d'introduire un point qui est généralement laissé de côté dans ces réflexions traditionnelles sur la nature, etc., qui est la question du déracinement vécu par les personnes issues de l'immigration et les générations suivantes. Vous releviez d'ailleurs aussi un concept qui appartient à Bourdieu, qui est celui de l'urbanisation pathologique. Du coup, je trouve ça vachement intéressant de voir à quel point cette question du déracinement, elle est vraiment au cœur de la façon dont, même de votre conceptualisation de la nature, de l'environnement.
Les habitants de quartiers populaires, ils sont déracinés de leur pays d'origine. Après, ça se voit à différentes générations. Mmh. Il y a les premières générations qui sont déracinées directement entre eux. Il y a vraiment cette fracture entre l'avant et l'après. Mmh. Et après, il y a cette deuxième, troisième génération qui a un lien avec le pays d'origine, un peu fracturé, qui est un peu dans cette quête identitaire, qui ne sait pas s'il est assez français, s'il est assez de là-bas ou d'ici. Donc il y a un peu le rapport entre le là-bas et le ici. Déjà, je veux soulever deux trucs. C'est que le premier, c'est notre rapport, en fait, au mot nature, qui est assez particulier, parce que souvent, dans les cultures d'origine, la nature, elle fait un avec l'être humain. Et le concept de nature, à proprement parler, comme étant distinct de l'être humain, c'est un concept très occidental et très récent. C'était Descola qui en parlait et qui disait justement que c'était un concept occidental. En fait, on a voulu créer un concept de nature pour pouvoir bousiller un peu la nature. Mmh. Parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de se faire du mal à nous-mêmes. Mmh. Donc, on est obligé. Enfin, on peut faire du mal qu'à l'altérité.
Ouais,
qu'à quelque chose qui est extérieur à nous. Et c'est pour ça qu'on a créé ce concept de nature qui est distinct de l'être humain. Ça s'accompagne un peu de notre mode de vie capitaliste. Parce qu'on pouvait se permettre de faire du mal à la nature, d'exploiter la nature, parce qu'elle ne elle faisait pas partie de nous. Et en fait. Du côté des cultures non occidentales, le concept de nature, il fait un avec l'être humain. Ça se voit aussi dans les religions. Par exemple, en islam, le concept de nature, il est très important. Enfin, la nature, c'est une branche de l'être humain. On doit respecter la nature. Dans les autres cultures, qu'elles soient maghrébines, africaines, asiatiques, latinas, la nature, elle est sacralisée, elle est mise sur un piédestal. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rituels, de traditions qui sont en lien avec la nature. Aujourd'hui, il y a l'ONU qui parle d'un concept qui s'appelle One Health. Du coup, c'est une seule santé. Où en gros, on considère que la planète en elle-même, elle a une seule santé. Et que la santé de l'être humain, c'est aussi la santé de la planète. Mmh. Mais en fait, ça existait déjà avant. Mmh. C'est juste qu'il faut se reconnecter à tout ça. Et du coup, aussi, le deuxième point, c'est que... quand on parle aux jeunes de quartier populaire, quand on leur dit ouais, est-ce que tu as déjà eu des projets écolos ou quoi, ils disent non. Mais souvent, ils vont te dire ils vont pas te le dire sous l'angle écolo, mais ils vont te dire ouais, de manière solidaire, quand je suis allée au bled, j'ai donné des vêtements, j'ai planté des arbres, j'ai nettoyé la plage. Et ça, c'est des projets écolos. Juste, on les nomme pas comme ça. Mais comme eux, ils ont cette attache à leur pays d'origine, plus du côté solidaire. Et où ils ont aussi ce respect de la nature là-bas, ils vont faire des projets écolos. Parce qu'en fait, ils arrivent à créer une connexion. Mais du coup, ici, en France, ça va être plus compliqué quand en face, on leur dit, vous n'êtes pas assez français. Mmh. Donc comment on peut sauver notre planète ou protéger notre territoire quand on nous dit qu'on n'est même pas les bienvenus ici. Et je me rappelle, ça me rappelle une anecdote, je parlais avec une dame qui travaille dans l'urbanisme. Et il me disait qu'il y a toute cette notion psychologique, en fait, quand on parle, par exemple, des endroits vétustes, ou alors plutôt des bâtiments qui sont un peu en mauvais état. Mmh. On se plaint souvent des habitants qui ne prennent pas soin de leurs bâtiments, des boîtes aux lettres cassées, des fenêtres abîmées, etc. Mais en fait, elle m'a dit, à partir du moment où il y a un objet qui est abîmé et que le bailleur ne va jamais rénover, en fait, les habitants, ils vont être dans une psychologie où ils vont se dire ça sert à quoi que je prenne soin du reste si ça n'a pas été réparé. Ça veut dire que le reste aussi, on s'en fout. Mmh. Donc, il y a ce truc de on ne se sent pas assez mis en valeur ou soutenu ou reconnu pour protéger, en fait, notre territoire.
Mmh. Et puis, alors, il y a le terme Matt Bird qui dit « Le terme de nature est tellement dépolitisant, je trouve. » Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais...
En fait, oui, je pense qu'on a voulu le dépolitiser. Et je pense que c'est ce qui... Enfin, le capitalisme a très bien réussi ça. On a réussi à dépolitiser le terme de nature. En fait, même, je lisais un document la dernière fois, je n'ai plus le titre, mais c'est hyper pertinent parce que... c'est Chakrabarty, il me semble, un auteur. Non, je ne sais plus si c'est ça le nom, mais bref. C'est un auteur indien qui disait que... en fait, il y a deux notions. Il y a planète et monde. Et en fait, le mot planète et le mot monde, on ne les considère pas comme étant le même. Il disait que, par exemple, dans mondialisation et dans changement climatique, mais en fait, c'est en anglais que c'était hyper important, c'était parce que dans globalization et dans global warming, il y a le mot global, du coup, le globe, mais on ne les considère pas pareil. Parce que dans globalization, c'est plus la planète dans la temporalité de l'espèce humaine. Et dans Global Warming, c'est plus dans la temporalité de toute la planète. Donc en fait, on ne les considère même pas comme étant les mêmes endroits. Il y a le monde dans lequel on évolue, les humains, qui est décorrélé totalement de la planète sur laquelle on vit. Et du coup, ça, c'est un peu ça qui... Enfin, c'est le mode de vie capitaliste qui a permis ça.
Vraiment.
Ouais, il y a une dissonance, en fait, entre les deux. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Et là-dessus, justement, Démobidule, alors je ne sais pas justement quel sera ton sentiment face à cette intervention. Il dit « Je suis ni immigré ni fils d'immigré. Pourtant, je me sens totalement déracinée. J'ai l'impression que la question du déracinement, elle est globale depuis la mondialisation.
Mais du coup, j'aimerais bien savoir dans quel sens il se sent totalement déraciné.
Mmh. Parce que j'allais dire, j'ai l'impression que... j'entends complètement ce qu'il dit et ça revient à ce que tu expliques justement sur la mondialisation. Mais ce sur quoi vous incitez dans le rapport, c'est vraiment, et là je vous cite, l'engagement de la jeunesse des quartiers populaires dans les causes humanitaires et écologiques, elle est liée à une forme de quête de réconciliation avec leurs racines et leur identité, qui est vraiment quelque chose de profondément identitaire. Je ne sais pas si tu veux un peu rebondir sur la façon dont s'intègre vraiment cette quête identitaire dans la façon de porter un engagement écologique.
En fait, c'est vraiment... c'est ce que je disais, c'est plus dans le sens où, quand on est dans cette quête identitaire, on ne se sent pas assez français ou pas assez de là-bas. En fait, je trouve que c'est très lié à l'identité qu'on a, parce que si on veut protéger notre endroit... Ah ben super, on a trouvé le... Voilà.
Merci Auréal, toujours au support.
mais du coup, quand on ne se sent pas assez d'ici, donc pas assez enraciné, on n'arrive pas à pouvoir protéger notre territoire. C'est un peu un instinct animal. Et c'est un peu le truc de... On a notre territoire. Si on sait qu'on y est, qu'on est légitime ici, on peut le protéger de plein de manières différentes. Mais si on nous fait face tout le temps à l'altérité, où on nous dit... t'es pas d'ici, t'es pas le bienvenu, t'es pas assez ici, t'es pas assez bien, t'es pas assez machin, bah forcément on va se dire, ça sert à quoi en fait que je protège ce territoire-là, puisque de toute façon on va me laisser partir après. C'était plus dans ce sens-là.
Je sais pas du coup si Demo Bidule tu veux rebondir là-dessus, mais du coup à l'inverse, le rapport il montre aussi à quel point notamment ce rapport au bled et au fait de porter des projets ou juste de s'engager écologiquement sans vraiment le conscientiser. C'est aussi contrebalancé. Enfin, l'autre aspect, c'est que il y a aussi une facilité d'identification plus générale au sud global. Il y a moins un rapport d'altérité face aux premiers impactés, comme on dit.
Parce qu'en souvent. Fait, quand ils voient que les plus impactés, c'est des personnes qui leur ressemblent, même si ils ont même pas grandi dans ces pays-là, ils vont réussir à créer du lien. Parce qu'en fait, le climat est tellement tendu en ce moment. Et on le voit, il y a deux semaines, un humoriste, Merwan, il a été...
Merwan
été...
Al-Azhar
Ben-Lazar, je
pense. Ben-Lazar.
Il a été viré parce qu'il avait un bonnet. un bonnet Zara. Et en fait, ça montre à quel point le contexte est très tendu. Le moindre faux pas peut nous faire perdre notre travail. Le moindre faux pas peut nous ficher à vie. Alors que là-bas, on se dit qu'on ressemble aux autres, même si on n'a pas vécu là-bas, on risque rien. Et donc, on arrive plus à créer du lien avec ces personnes-là. Il y a aussi ce rapport à l'identification, on se reconnaît en eux. Et aujourd'hui, pendant très longtemps en France, ou dans le monde occidental, il y avait très peu de personnes auxquelles on arrivait à s'identifier dans le mouvement écolo. Là, les figures qui existent, c'est Fatima Wassak, Fariz Barkat, Malcolm Ferdinand. C'est des personnes racisées auxquelles on arrive à s'identifier aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, on n'avait pas ça. Et puis, ça reste trois personnes. Et j'espère n'en avoir pas oublié d'autres. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui existent. Mais ça reste très négligeable. Enfin, c'est négligeable.
Très niche,
quand...
finalement.
Ouais, c'est une niche de fou. Et c'est très peu quand on compare au reste du mouvement climat.
On a un retour de Demo Bidule par rapport à son commentaire de tout à l'heure. Il dit déraciner dans le sens pas de culture traditionnelle, pas d'attachement à la France ou à mon territoire, pas d'affection pour l'histoire de ma famille. C'est peut-être ça, j'ai l'impression que justement le rapport à l'histoire de la famille, c'est peut-être ça qui différencie de ce que vous racontez. Il y a vraiment un apprentissage justement de pratique.
Justement, quand tu as grandi entre deux cultures, que tu grandis beaucoup avec tes parents et qui te transmettent leur culture, t'apprends d'eux, parce que c'est un peu le seul truc qu'ils peuvent te transmettre. Et quand en face, du coup, t'es jamais assez bien, tu te raccroches un peu à la culture qui te reste. Mais c'est assez... Ça évolue, en fait, avec le temps. Quand t'es plus jeune, c'est pas vraiment ça. Et puis, à l'adolescence, t'es en quête identitaire, donc tu veux savoir qui t'es, tu te cherches. Et du coup, ça arrive plus à ce moment-là.
Alors, je voudrais peut-être qu'on passe à de l'opérationnel, puisque, encore une fois, le rapport ne fait pas que poser des constats, mais il propose vraiment plein de pistes, de chantiers. Il y a vraiment de quoi faire à la fin de ce rapport. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un commentaire que j'ai bien vu, mais qui était, je crois, de valeur anarchiste, qui disait Maintenant, face à ça, le problème, c'est qu'en tant que citoyen, on ne peut pas faire grand-chose. Mmh. Alors, j'ai l'impression que justement, ce rapport, il n'est pas forcément d'accord avec ça et qu'il identifie plein de choses. Alors, peut-être pour commencer, let's go du concret. Exactement, tout à fait. Peut-être pour commencer un peu plus généralement, en fait, vous proposez une stratégie qui est vraiment pensée dans plusieurs catégories. Déjà, vous parlez d'un double objectif structurel et palliatif. Est-ce que tu veux expliquer à peu près quel est l'objectif de ça ?
Du coup, palliatif, structurel, c'est plus dans le sens où y a des inégalités structurelles et donc on peut agir à la racine du problème et dénouer ces inégalités-là. Donc c'est du travail sur le long terme, c'est très difficile, mais avec de la bonne volonté, ça se fait. Et après, le palliatif, c'est vraiment dans le sens où on va corriger les conséquences de toutes ces inégalités structurelles. Ça se fait souvent avec les associations. C'est plus avec des associations qu'avec du gouvernemental. Enfin, le gouvernemental, ça va être plus du structurel et tout. Mmh.
Voilà. Tout ça, c'est le double objectif que vous affichez et vous articulez votre stratégie sur 4 échelles. Peut-être que justement, ça permettra de répondre un petit peu ou d'apporter de l'eau au moulin de valeurs anarchistes et de toutes celles et ceux qui justement se posaient la question de l'échelle citoyenne. Vous pensez qu'on peut agir à 4 échelles, l'échelle institutionnelle, l'échelle collective, l'échelle citoyenne et l'échelle individuelle. Peut-être que tu peux un peu nous expliquer ça. Moi, notamment, je me demandais un petit peu quelle distinction vous faisiez entre citoyen et individuel. Ouais. Voilà, peut-être que tu peux nous...
Du coup, individuel, du coup, c'est nous, on va faire, du tri, de déchets, tout ça. Citoyen, en vrai, on voit la force du vote, même si c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mm-hmm. Mais c'est important en tant que citoyen aussi de se rendre compte du droit et du devoir qu'on a mm-hmm. et de l'impact qu'on peut avoir. Et ça rejoint un peu le mouvement un peu collectif, dans le sens où, de manière collective, on peut avoir un impact... Donc c'est le boycott, toutes les manifestations. Et après, il y a institutionnel, c'est plus du coup le gouvernement, les parlementaires qui vont pouvoir changer la donne.
Vous faites du plaidoyer un peu à GetUp ou...
On commence un peu à travailler sur ça.
En tout cas, vous produisez des données pour alimenter le plaidoyer, quoi.
Exactement. Et du coup, en fait, on a identifié trois points en fait sur lesquels on peut bosser. Mmh. Donc il y a la santé parce que en fait on s'est dit que forcément si on parle d'écologie comme ça de manière brute ça va pas forcément parler, mais qu'il y a des portes d'entrée par lesquelles on peut toucher à ça. Donc il y a la santé, il y a le logement et il y a les métiers. Mmh. Donc la santé c'est dans le sens c'est ce que je soulevais tout à l'heure. Il y a un problème au niveau du système de santé, donc la Seine-Saint-Denis qui est premier désert médical français. Et en fait, d'autant plus qu'en 2016, on avait voté une loi qui permettait à tous d'avoir accès à la santé de manière égalitaire. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on parle aussi, on a trouvé aussi comme aspect important le logement, mmh. parce qu'aujourd'hui, et en plus, en ce moment, il y a 40 associations et collectifs qui se sont rejoints pour attaquer l'État contre le mal logement. Mmh. Et donc, ça, c'est hyper important à soulever parce qu'il y a une problématique du logement aujourd'hui en France. Le logement, c'est une question qui touche tout le monde. Et on parle beaucoup de passoire thermique, de bouilloire thermique. J'ai découvert le terme en plus il n'y a pas longtemps.
Non, je ne connaissais pas bouilloire thermique.
J'ai découvert ça hier. Il y a tout ce qui est question de moisissure, d'insalubrité, etc. Il y a même le cliché qu'on a sur les logements insalubres avec des cafards ou des rats. En fait, nous, on veut juste revenir à la question d'un logement indigne. Si pendant 2 jours, on n'a pas de chauffage ou si pendant 2 jours, on n'a pas d'eau chaude, c'est indigne. Mmh. C'est pas normal que dans notre pays, il y ait des personnes qui soient encore qui subissent encore ça. Mmh. Et après, le troisième point sur lequel on s'est penché, c'est les métiers d'avenir notamment. Il y a plein de métiers qui vont se créer dans l'objectif de lutter contre le changement climatique. Mais il y a toute une question sociale à prendre en compte qui est que forcément, quand on va parler de métiers d'avenir à des jeunes de quartiers populaires, on va les diriger vers le BTP, par exemple, le BTP vert. Mais en fait, c'est des jeunes, c'est des jeunes qui ont vu leurs parents se tuer le dos au taf, notamment des parents qui ont eu des métiers précaires, des métiers dans le bâtiment, des métiers des parents qui ont été agents d'entretien, etc. Donc, il y a cette question sociale où on ne va pas leur proposer des métiers où ils ont vu justement leurs parents être dévalorisés socialement et subir... des problématiques de santé. Mmh. Et donc, on va leur proposer plutôt des métiers où il y aura une ascension sociale. Mmh. Et donc, des métiers où ils peuvent s'imaginer et être ambitieux et rêver grand. Mmh. Donc, voilà.
Mais c'est donc en effet les trois pistes que vous avez identifiées. On n'aura malheureusement pas le temps de revenir sur tout, mais si tu veux bien, je pense qu'en ce moment tu es à fond sur la question du logement.
Ouais.
que tu fais ça de tes journées à fond, en tout cas. Comme tu l'as dit, en ce moment il y a une actualité par rapport à ça, puisque l'État est attaqué en justice par un collectif d'associations dans lequel il y a notamment la Fondation pour le logement des défavorisés, qui est l'ex-fondation Abbé Pierre. Est-ce que tu veux un petit peu revenir sur les revendications qui sont portées ou que vous portez à GetUp ou là-dessus?
Bah, en gros, on s'est dit qu'on a commencé à faire nos recherches sur le logement et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que sur le site du gouvernement, quand on tape logement indigne ou logement insalubre, déjà c'est la même définition et elle est assez vague. C'est pas très clair, il n'y a pas de critères et c'est pas un droit opposable. Ça veut dire qu'on ne peut pas porter plainte pour pouvoir... prétendre à nos droits. Mmh. Y a quelqu'un qui dit que la rénovation thermique de logements serait super d'un point de vue social et environnemental. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, quand on regarde aussi l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, elle favorise la démolition. Soit pour renouveler les bâtiments et augmenter le prix du foncier et ramener une nouvelle population, ou alors pour mettre au niveau, aux conditions... légales, disons, les appartements ou les habitations. Le problème, c'est que la démolition et la rénovation, c'est un coût énorme de manière écologique et un coût énorme de manière économique aussi. Mm-hmm. Donc en fait, c'est pas du tout rentable. Je sais pas pourquoi on le fait. à part pour payer plus cher, je sais pas pourquoi on le fait. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue d'urbaniste, en fait, c'est toujours plus rentable de réhabiliter les habitations. Donc, par exemple, si l'appartement n'est pas aux normes et est une passoire thermique, on va réhabiliter de l'extérieur. On va créer de l'isolation extérieure. Et ça se fait très bien et c'est 100% possible. Donc voilà, nous, on s'est posé un peu sur ces questions-là. Et on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas juste définir de manière claire, avec des critères établis par les habitants et par des experts, ce qu'est un logement indigne et d'en faire un droit opposable.
Tu peux peut-être définir droit opposable.
En gros, c'est dire que... aujourd'hui, c'est pas un droit opposable parce que demain, si moi, je suis dans une condition, dans un logement indigne ou un logement insalubre, je peux pas porter plainte. Mm-hmm. Je peux pas faire de recours. Mm-hmm. Alors, ça va être très difficile, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on veut que ça le soit. Et c'est pour ça aussi, en fait, la problématique qu'ont toutes les associations en ce moment sur le mal-logement et... qu'a le DAL aussi depuis des années, c'est que c'est assez compliqué. En fait, c'est des process très compliqués qui prennent du temps. Y a des militants qui s'actionnent depuis des années sur ces thématiques-là. Voilà. Mmh.
Et vous avez, enfin, ça fait vous faites partie de la coalition?
Non, on n'en fait pas partie.
Mais vous êtes en accord avec ce qui est...
Ouais, on est en accord, on est en contact avec eux. Ouais. Et en fait, par exemple, demain, on va faire un groupe de co-construction sur le logement indigne. Et donc, on va inviter des habitants issus de collectifs d'habitants, des experts qui ont travaillé au DAL, qui ont travaillé par le passé.
C'était pareil, le DAL
En fait, c'est une association qui est du coup droit au logement et donc qui milite depuis des années pour ces questions-là. Pas forcément sur l'aspect justice climatique, mais sur ces questions de logement. Et l'objectif, c'est de réunir à la fois des experts et des non-experts, donc des habitants, qui peuvent parler de ça et de réfléchir ensemble à des solutions. Donc pas seulement des constats, trouver aussi des solutions positives, trouver un levier d'action... cette thématique. Mmh.
Parce que, si j'ai bien compris, il y avait un projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables. Il y avait des choses comme ça et qui ont été un peu interrompues par
la dissolution.
Ouais, par la dissolution. Ces projets, il est en discussion en ce moment.
Je pense pas. En fait, je pense que depuis la dissolution, ça a été tellement le bordel que c'est un peu compliqué. Ouais. Mais du coup, c'est cool qu'il y ait les 40 associations qui fassent un recours parce que ça a créé un élan. Un nouvel élan. Après, nous, on essaie de voir comment aussi les aider sur cette question-là. Mmh. Mais voilà.
Alors du coup, à propos de la rénovation thermique des logements, il y avait notre chère Démobidule qui répond « J'ai vu des avis contradictoires sur ce sujet, comme quoi dans les faits, les politiques de rénovation permettent l'amélioration des logements des plus favorisés, mais ne diminuent pas les émissions liées au logement, ni n'améliorent les logements des populations vulnérables. » En gros, les logements les plus favorisés sont les mieux.
En fait, ça dépend de comment on considère la rénovation. Du coup, si la rénovation, c'est par la démolition, là, ça va être problématique parce que c'est de la gentrification et surtout que la loi SRU. La loi SRU, c'est quoi bref, c'est une loi qui...
Ariel pourra nous le retrouver.
C'est une loi, en fait, où on demande aux villes d'avoir 20 à 25% de logements sociaux chez eux, mais il y a certaines villes dont je tairai les noms qui ne respectent pas.
T'as le droit de dire les noms.
Il me semble que Nice, les villes comme ça, un peu, ça ne respecte pas. Mm-hmm. Et en fait, c'est problématique parce que, du coup, ça ne crée pas de mixité sociale dans certains quartiers. Mm-hmm. Souvent, quand il y a de la rénovation urbaine qui passe par de la démolition, on ne va pas respecter forcément ces taux de logements sociaux. Et surtout qu'en fait, quand on passe d'un quartier où il y avait 100% de logements sociaux à seulement 20% de logements sociaux, c'est hyper inégalitaire. Mmh. Et c'est ça qui est problématique. Après, si c'est de la réhabilitation, normalement, ça, c'est tout le temps possible de réhabiliter les immeubles sans les détruire, justement.
Mmh. Alors, on a Funky Cool qui dit « Améliorer la qualité de vie, peut-être de démolir des bâtiments, c'est contre-intuitif. » Mais c'est ça aussi, réduire le stress dû à l'accumulation d'immeubles qui peuvent être étouffants et logique pour la sécurité et pour l'accès des pompiers pour les habitants.
En fait, le truc, c'est qu'il faut aussi changer nos imaginaires. Et qu'aujourd'hui, on imagine qu'une maison individuelle, c'est le paradis et que ça va être ce qui va se faire de plus en plus. Sauf qu'en fait, de manière écologique, ce n'est pas ça le futur. Mmh. Une maison individuelle, c'est très polluant. Certes, ça permet un certain confort de vie. Mais aujourd'hui, dans la manière dont on est en train de peupler la France, en tout cas, quand on voit la manière dont on est en train de s'étendre et comment la démographie augmente aussi, le logement individuel, donc les petites maisons toutes seules, ce n'est pas le futur. Le futur, ça va être des immeubles qui vont devoir s'adapter en fait à accueillir du monde, à être assez spacieux pour justement pas avoir l'impression d'étouffer, qui vont respecter les critères d'exigence. Mais le logement individuel, c'est pas ça qu'on va préférer justement.
J'ai l'impression que la question du relogement est pas forcément. Enfin, ça, c'est pas forcément on démolit et on met les gens dans quelque chose de mieux, quoi.
Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, quand on démolit et on les reloge vraiment ailleurs. Ce qui se fait, en fait, aujourd'hui, quand on parle de gentrification, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un endroit, par exemple, si on prend les Francs-Moisins, on va avoir les bâtiments.
Donc, pour rappel, c'est qu'il n'était pas encore là, Francs-Moisins, qui est donc un quartier
À
Saint-Denis, qui est en cours de gentrification.
Exactement. Et du coup, y a des bâtiments qui sont en train d'être détruits peu à peu. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens de partir, mais en fait, on les éloigne vers le 77. Sauf que quand tu habites à Saint-Denis et que tu es juste à côté du RERB, donc juste à côté de Paris, que ton travail, sûrement, il est à Paris ou aux alentours, et qu'on te dit d'aller dans le 77, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, il y a tout cet, je redis, ancrage territorial. En fait, les gens habitent là, ils ont leur vie ici, et c'est une violence aussi, c'est une violence qu'on leur fait, de leur dire, vous partez. Et ça leur montre aussi comment on les considère.
Mmh. Et ça, tu sais un peu où est-ce que ça en est en ce moment?
Il y a eu un bâtiment qui a été détruit, il me semble, et là, ils sont en train de continuer. Mais du coup, il y a Francs-Moisins Citoyennes qui se mobilise depuis des années contre ça. Mais voilà.
Oui, ok. J'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi, encore une fois, on reste dans cette attitude très, en fait, encore coloniale à l'échelle hexagonale d'une idée de on va offrir, on va presque aller donner du meilleur à ces personnes en quartier populaire, alors qu'en fait, c'est pas. Il y a tout ce qui se passe, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas forcément de comment dire j'ai plus le terme exact, mais on ne va pas forcément demander de consultation. Voilà. Y a pas forcément de consultation citoyenne où on va demander aux habitants quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut réparer, comment améliorer leur cadre de vie.
Et tu sais si l'association ou le collectif Francs-Moisins Citoyennes, on peut les soutenir ou les...
Il me semble qu'elles ont un groupe Facebook.
Okay.
Elles ont une page Facebook, il me semble. Sinon, peut-être sur Instagram. Mm-hmm. Sinon, vous tapez Diangou Traoré et vous allez trouver tout ce qu'elle fait.
Okay.
Elle est incroyable. Et Diangou, ça s'écrit D-I-A-N-G-O-U et Traoré.
Diangou Traoré, donc de Francs-Moisins Citoyennes, qui donc fait partie des personnes qui ont été interrogées. Et elle a eu aussi une cantine ou un truc comme ça. Non, je ne me souviens plus.
Non,
j'ai confondu avec quelqu'un d'autre.
Ouais, elle, c'est Yamina, il me semble.
D'accord, j'ai confondu deux personnes alors.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Mais il me semble qu'elle a fait une cantine.
Ok, alors bon, comme je disais, on ne va pas pouvoir malheureusement détailler tous les chantiers que vous avez détaillés, mais peut-être j'aimerais passer aussi à un autre sujet et rebondir sur une question qui a été posée et qui a fait remonter Eurial, qui était la question du rapport, et ça, peut-être ça agit sur l'échelle citoyenne que vous identifiez sur la question du vote, des élections, etc. Parce que, en fait, en effet, moi, j'aimerais bien qu'on évite de rentrer après dans un écueil qui est celui du manichéisme, les méchants de droite, les gentils de gauche, qui consisterait déjà à penser qu'il n'y a que l'extrême droite qui stigmatise les quartiers populaires et que la gauche serait un peu l'allié absolu. Mmh. Voilà. Déjà, il y avait une question, j'aurais une question qui est autour de l'expérience des législatives de juin, qui, j'ai l'impression, a été une preuve assez frappante d'exacerbation du sentiment que la gauche aurait tendance à réduire les quartiers populaires à un corps électoral qu'on mobilise en période d'élection et qui, en plus, ça peut avoir des discours très déconnectés de ces réalités-là. Est-ce que tu veux dire un peu un mot là-dessus?
Bah, en gros, le sentiment qui a été prédominant pendant les législatives, c'était que les habitants de quartiers populaires étaient des électeurs castors, qui ne servaient qu'à faire barrage. et en fait, on le voyait aussi quand il y a eu des groupes qui se sont organisés pour faire du tracting. Forcément, ils ne connaissaient pas trop les codes, ils ne connaissaient pas les endroits où ils allaient. Et les gens leur disaient, en fait, vous nous dites bonjour et vous venez nous voir que quand vous avez besoin qu'on vote pour vous. Mmh. Sauf que toute l'année, on nous frappe dessus. Et là, on voit. Et là, ça s'accumule. Il y a eu Merwan Bennazar, du coup, qui s'est fait virer. Il y a Bruno Retailleau qui fait à chaque fois des envolées où il critique les musulmans et qui crée une ambiance, un climat de tension où il met les uns contre les autres. En fait, toute l'année, les habitants de quartiers populaires et en fait, du coup, ça entre dans la lutte antiraciste et contre l'islamophobie, se font taper dessus pour X ou Y raisons. Et lorsqu'il y a besoin d'eux, on va les chercher et on va leur dire non, mais votez pour nous et vous inquiétez pas. Et quand on voit si ce que proposent les partis, c'est pas ce qu'on veut exactement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont pas encore ils sont pas encore alignés avec nous. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du fait que quand le NFP s'est créé, tout ce qui était antiracisme n'était pas au point. Tout ce qui était lutte contre l'islamophobie n'était pas au point. Du coup, les quartiers populaires se sentaient un peu comme les pions qu'on utilise. C'est un peu le joker. On a besoin de on les ramène.
Et puis il y a eu, donc, il me semble, je n'ai plus les noms des personnes qui ont contribué à créer ça, mais la création d'un une espèce de contre-programme du NFP en version antiraciste.
Ouais, le front antiraciste, et donc c'était Sunboy qui était à l'initiative.
Sunboy du média Histoire Crépue.
Ouais, avec d'autres militants antiracistes, dont Douzi Bondo, plein de militants antiracistes.
Tout à fait, il y en avait qui étaient venus justement au live, s'il y en avait qui étaient là pour le live justement de je ne sais plus combien d'heures il avait duré, peut-être 10 heures, de Au Poste. Il y avait deux représentantes du front antiraciste qui étaient venues. Et il y avait une autre question du coup qui avait été posée dans le chat, qui est, est-ce que toi, est-ce que vous à GetUp, vous avez constaté ou pas un manque de d'engagement aux urnes, justement, à ce moment-là, dans les quartiers populaires?
En fait, il y a de l'abstention dans le vote des quartiers populaires, ça existe, et c'est pour ça qu'il y a plein de municipalités qui sont aujourd'hui à droite ou à l'extrême droite, et ce qui est hyper surprenant dans, dans certaines villes. Donc, par exemple, des villes comme le Blanc-Ménil, des villes comme Aubervilliers, où la maire, elle s'est retirée il y a 3 jours, mais du coup, elle était de l'UDI. Ça, c'est assez surprenant quand on voit ces villes qui sont très marquées à gauche, qui ont un historique de villes de gauche communiste de base. En fait, ça se défend et ça se comprend. Parce que quand toute l'année on se fait taper dessus, quand toute l'année on voit que rien ne change, forcément il y a des personnes qui vont se dire ça sert à quoi de voter. C'est inutile. Pendant les législatives, moi, à 6 personnes, j'étais allée faire du tracting pour dire aux jeunes de quartier populaire d'aller se mobiliser, d'aller voter parce que. On n'a pas envie que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et typiquement, il y avait des jeunes qui me disaient toute notre vie, t'as la police qui fait des rondes autour de nous. Et au moindre truc, elle vient nous embêter. Et en fait, ça ne change pas notre vie. C'est ça, c'est un quotidien où rien ne change. Les services publics ne sont pas au point. On est vraiment on est vraiment dans une routine qui est un cercle vicieux. Mmh. Et du coup, ils avaient perdu foi en la politique. Mmh. Et en fait, face à ça, je ne savais pas trop quoi leur dire parce que j'avais l'impression de leur mentir. Mmh. Et quand le NFP, du coup, a eu plus de votes pendant les législatives, on a été rassurés. Mais dès qu'on a vu qu'il y a eu Barnier au pouvoir... franchement, j'ai pris des... Enfin, moi, à titre personnel, je me suis pris des remarques, des messages où on m'a dit, tu vois, ça ne servait à rien. Mmh. Et même des potes à moi qui avaient tracté, qui avaient mobilisé leur gêne et tout, ils se sont pris plein de backlash à la fin parce que forcément, tu promets des choses parce que on n'y croit pas à 100%, mais on essaie d'y croire un minimum. Mais quand en face, ça ne suit pas, forcément, en fait, ça se comprend de fou, l'abstention. Parce que c'est un ras-le-bol. C'est juste un ras-le-bol.
Et en même temps, j'ai aussi vu souvent passer des choses, des rappels via l'association pour la justice sociale en quartier populaire qui disait, comme ce que tu disais, en effet, il y a de l'abstentionnisme, mais qui s'explique. Mais il ne faut pas oublier que si la gauche est passée, c'est aussi grâce au, au vote des quartiers populaires.
En vrai, si la gauche est passée, c'est vraiment grâce aux quartiers populaires. Mmh. Parce qu'il y a eu une mobilisation de fou. Il y a plein de gens qui se sont organisés pour aller, en parler à leurs proches, à leurs amis, leur dire « je sais que tu n'y crois plus, mais fais un effort ». Totalement. Mmh. Et faut que la gauche nous le rende.
C'est bien dit. À bon entendeur, salut. Et est-ce que d'ailleurs, c'est cette force organisationnelle qui s'est déployée, mine de rien, pendant la période des législatives, c'est quelque chose qui est un peu resté ou qui s'est complètement dissous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, par exemple, parce que forcément, on voit 2027 arriver de plus en plus vite, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y a des bases qui restent, organisation de réseau, etc.?
Je pense que oui, parce que ça a donné quand même un souffle. Et ça nous a aussi permis de nous rendre compte qu'on pouvait s'organiser, on pouvait créer du lien, on pouvait se mobiliser tous ensemble. Donc ça, c'était super fort. Ça s'est un peu essoufflé quand du coup, il y a eu Barnier au pouvoir, que c'était aussi très intense. Enfin, en termes de santé mentale aussi, des militants, militantes, ça prenait du temps. D'ailleurs, avec Get Up, on a fait un post sur la santé mentale des militants. Et ça a énormément pris parce que ça montre à quel point les gens en avaient besoin de ce poste, parce que ça explique concrètement ce qui se passe en fait quand on est militant, quand on parle toujours de ces sujets-là. C'était 3 semaines très intenses, c'était très fatigant. Donc forcément, il y a eu un contre-coup, un petit essoufflement. Mais je pense que les bases ont été posées. Donc ça, c'est cool. Et après, je sais qu'il y a du taf qui se fait à droite, à gauche, et que les gens essaient de s'organiser.
Il y a des choses, vous, à Get Up, en tout cas, que... Est-ce que vous êtes déjà dans une optique de préparation d'une éventualité d'extrême droite au pouvoir? C'est quoi un peu... Est-ce que vous avez une position par rapport à ça?
Nous, on est contre l'extrême droite, ça, c'est sûr.
Étonnant.
c'est clair et net. Mais je sais que nous, on se positionne et on se positionnera toujours contre, qu'on essaie vraiment de créer... on veut vraiment créer de la discussion entre... quand on s'adresse par exemple au parti de gauche, on ne va pas se focus que sur un parti. On essaie vraiment de créer de la discussion avec plusieurs partis. On n'est pas forcément, on n'a pas un projet là clair et net sur 2027, ou alors pas à ma connaissance. Mais après, c'est aussi ça le taf du pôle écosystème, de créer du lien avec l'écosystème, des associations, de créer cette base solide aussi, de laisser continuer cette base solide qu'on a créée pendant les législatives.
Mais écoute, je vais justement me servir de ça pour rebondir, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de ce super échange. D'ailleurs, il y a eu plein de gens qui ont commenté en te disant merci beaucoup pour ce que tu fais et à quel point c'était important. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont fait ce genre de commentaires, c'est vraiment encourageant, vraiment chouette. Alors il y a Funky Cool qui disait « La gauche pour moi c'est pas la solution, après c'est mon avis ». Ça dépend aussi si tu parles peut-être en tant que parti politique qui l'a fait, est-ce que vous croyez plutôt en la mobilisation citoyenne ou dans un parti, mais je sais pas si...
Bah en fait pour le Get Up je saurais pas dire. Parce que là, je parlerai que en mon nom si je réponds à la question. Mm-hmm. En fait, pour moi, je pense que... Enfin, vraiment, à titre très personnel. Mm-hmm. Je pense qu'à un moment donné, on parlera même plus de parties, mais plus de... Enfin, les parties vont un peu se déconstruire. Ça ne va plus avoir de sens, je pense. Et on va plus parler de courants politiques. Mais en fait, je saurais même pas trop me positionner aujourd'hui parce que c'est tellement instable. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, la priorité des partis, ce serait de s'aligner sur des thématiques qu'on leur demande, donc ce qui est antiracisme, ce qui est lutte sociale, et pas utiliser certaines thématiques pour ramener des gens pendant les périodes stratégiques, mais plutôt vraiment prendre en compte tout ce qu'on leur demande, mais de manière structurelle dans leur parti. Moi, je me souviens juste d'un truc qui m'avait frappé, c'était que quand on avait vu la photo de classe du NFP, c'était pas très représentatif, et j'ai trouvé ça très dommage quand pendant tout l'été, on nous parlait et on nous faisait croire, entre guillemets, qu'on avait pris en compte tout ce que nous, on demandait. J'ai trouvé ça dommage. Je pense qu'il y a toute cette restructuration des partis qui est à prendre en compte, le fait de vraiment... quand on parle d'antiracisme, pas faire de l'antiracisme de façade, mais le prendre vraiment en compte quand, même dans notre propre structure, dans notre manière de s'organiser. Il ne faut pas que les personnes racisées servent de consultants, mais plutôt d'acteurs actifs. Ouais. Ouais, d'acteurs.
Peut-être justement pour un peu finir là-dessus, tu le dis bien, vous êtes un collectif qui a vraiment pour but de... créer du dialogue, des liens, d'être une passerelle, quoi. Et je trouvais ça intéressant parce que, il y avait une citation que vous avez mise dans le rapport qui est celle de Tarek Kotari, je ne sais pas comment malheureusement ça se prononce. Kotari, parfait. Ouais. Qui était représentant du MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues. Il était représentant du MIB en août 2023 pour l'ARZAC 2023, donc les 30 ans du début de la lutte au l'ARZAC. Et il disait, nous ne ferons pas de convergence au prix de notre reniement. Et j'ai l'impression que, je trouve ça vachement intéressant comme citation de l'idée de, on est là pour faire du dialogue, on est là pour être une passerelle, mais ce sera jamais au prix de notre reniement. J'ai l'impression que ça.
Bah en fait, c'est ça. On veut garder notre identité, on veut garder notre intégrité. Et en fait, c'est aussi quelque chose que, nous, on courbera plus les chines, on va plus. Baisser la tête. On sait qu'on a notre place ici, qu'on est des Français à part entière et qu'on fait partie aussi du décor. Donc certes, on est là dans la discussion et on ne sera jamais fermé, mais par contre, on ne courbera plus les chines. On veut être accepté et on ne veut plus être des citoyens de seconde zone.
Et après, avoir votre place dans les... Je sais plus comment vous disiez, dans l'arène les arènes de l'écologie.
Oui, c'est ça.
Et je dirais du coup un peu pour la fin, qu'est-ce que vous appelez de vos voeux de la part des acteurs traditionnels de l'écologie? Et peut-être là, je penserais même plus spécifiquement, moins aux partis, aux politiques, mais aux orgas, aux citoyens, aux collectifs,
C'est vraiment de ne pas hésiter à venir nous parler. Parce que... après, ça a été fait. Ça franchement, il faut le reconnaître. C'est que quand le rapport est sorti, il y a plein d'organisations climat mainstream qui sont venues nous parler et qui ont été vraiment dans une très belle posture de nous dire « on veut travailler avec vous ». Et ça, franchement, c'était hyper enrichissant. Et on a pu créer de très belles connexions. C'est vraiment, en fait, ne pas faire pour les gens, mais faire avec eux. Je pense que c'est vraiment la question, le
la
point
posture,
important,
en fait,
la posture, en fait, qui est très importante. C'est vraiment pas avoir cette mentalité coloniale où on va dire on va aller là-bas, on sait mieux qu'eux. Non, c'est... En fait, ils connaissent. Ils savent déjà leur endroit, ils connaissent leur territoire. Autant faire avec eux et apprendre les uns des autres. Je pense que l'échange est très important. Et pas hésiter aussi à demander des conseils, à suivre des formations. Nous, on propose des formations sur l'antiracisme. On propose des formations justement qui sont liées au rapport sur l'injustice climatique. Donc, on est vraiment dans cette démarche de proposer des échanges, de consolider les liens avec les uns et les autres.
Et de quoi vous auriez le... C'est quoi les choses dont vous avez le plus besoin en ce moment à GetUp? J'imagine peut-être des fonds, tout simplement.
Ouais, des fonds.
est-ce qu'on peut vous soutenir, faire des...
Oui, on peut nous soutenir. Il me semble qu'il y a un lien Hello Asso. Sinon, tout est sur le site.
Sur le site de GetUp.
Sur le site de GetUp. Et n'hésitez pas
optimistique dit qu'il va aller visiter le site internet.
Ah, mais avec plaisir. Et même quand on fait des événements, tout est sur Insta, on fait souvent des événements. C'est ouvert à toutes et à tous. Et voilà. Et lisez le rapport en justice climatique.
Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir tout ça?
Bah, de continuer à proposer plein de petits projets. Il y a d'autres rapports qui vont voir le jour dans pas très très longtemps.
Est-ce que c'est une exclue que tu es en train de nous donner, un scoop en fin d'émission? Incroyable.
Mais ouais, n'hésitez pas à venir à nos événements, n'hésitez pas à donner de la force aussi, parce que c'est du travail de longue haleine, mais aussi à toutes les associations qui font du très très bon travail. En fait, si je commence à citer, je vais jamais finir. mais il y a beaucoup d'associations, que ce soit des assos climat ou des assos juste de justice sociale ou même de plein d'autres sujets qui font du très bon travail. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, c'est hyper important.
Et ben finalement, le mot de la fin est parfait puisque dans les personnes que vous pouvez soutenir et les entreprises, les associations que vous pouvez soutenir, il y a aussi les médias indépendants, n'est-ce pas? Donc, allez soutenir GetUp, allez soutenir les associations et soutenez aussi la presse indépendante. N'oubliez pas que vous pouvez faire des dons à Au Poste également, que ce soit mensuel ou que ce soit ponctuel. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà. Merci à toi, du coup, Rania, pour ce super échange. Peut-être montrer une dernière fois ce super rapport injustice climatique qui est donné sur les post-it, hein. Vous ne les aurez pas en le commandant, qui est donc gratuit, en accès, en téléchargement libre sur le site de GetUp, et vous pouvez aussi le commander pareillement sur le site de GetUp. Merci Rania pour tout ça, et on se retrouve en mars pour la prochaine Décoloscope. Et je souhaite une belle soirée à toutes et à tous, merci de votre fidélité, et puis à toutes celles et ceux qui découvraient Au Poste aujourd'hui, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt. Salut, au revoir à tout le monde.
Salut.
Les amis, nous sommes sur Au Poste.fr. Abonnez-vous. Les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal. On est entre nous. C'est Au Poste. Au Poste.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Au Poste.
J'encourage. Faites un don à Au Poste. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous Au Poste. Adonnez-vous Au Poste.
Et faites des dons à Au Poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Au Poste. Il faut donner de l'argent pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous Au Poste.fr. Au Poste.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Au Poste.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Au Poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Auposte.fr, y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient Au Poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste, il ne faut pas que ce soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous Au Poste.fr, Au Poste.fr.
Oh, bravo.
Abonnez-vous Au Poste.fr.